le paysan, il a un statut, quelque sorte de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
Mais tout cela parce que on défend l'agriculture de type capitaliste.
C'est pas d'être propriétaire en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Salut auditrices et auditeurs de Radio Canu. Il est 18h et c'est l'heure de la traite et des paysans et paysannes dans la lutte des classes. Une émission que vous pouvez retrouver tous les 15 jours, le jeudi de 18h à 19h. Nous allons écouter un extrait des premières rencontres de l'atelier paysan qui ont eu lieu cet été, en juin, à la ferme de Saint-Laurent, à 5 minutes de Cluny, en Saône-et-Loire, et qui s'intitulait Machines et bâtiments agricoles libres ou le salon de la bidouille paysanne. On peut dire que ça dénote un peu de ce qui est encouragé par les politiques agricoles capitalistes d'aujourd'hui. Pour illustrer ça, je reviendrai sur une expérience personnelle où il y a quelques mois, je me suis rendue chez un concessionnaire de matériel agricole pour des renseignements sur un broyeur et sur les comptoirs du magasin, il y avait plein de prospectus sur l'agriculture de précision, qui a l'air de s'inscrire dans l'air du temps. En effet, on peut dire que cette agriculture qui était réservée aux concessionnaires de machines agricoles des zones céréalières est désormais présente un peu partout et utilise un package de solutions logicielles et d'outils technologiques pour l'agriculture industrielle, qui n'a pas d'autre ambition que de trouver des solutions pour les agriculteurs dans le monde entier et de faire au passage, un paquet de fric, comme si les paysans et paysannes les attendaient pour trouver des solutions à leur place. L'agriculture de précision est utilisée comme argument pour combiner profit et écologie. Par exemple, on peut lire que grâce à des capteurs, un agriculteur peut mieux maîtriser son irrigation sur ses champs de pommes de terre. Bref, la smart agriculture a le vent en poupe et est même plutôt verte. Jean-François Souzana, directeur scientifique environnement à l'INRA en 2014, y soutenait que, je le cite, l'agroécologie n'est pas incompatible avec les technologies. Au contraire, elle nécessite de recourir de façon accrue aux technologies modernes. Par exemple, l'utilisation d'un smartphone pour déterminer une maladie de la tomate. Là, j'arrête de le citer. Donc, pour aller plus loin sur le sujet, vous pouvez lire l'article de Michael Correa, extrait du magazine Transrural Initiative, qui est, je crois, paru en 2014, qui a été repris par Bastamag et qui s'appelle « Quand l'ombre des drones plane sur l'agriculture ». Donc, pour aller un peu à contre-courant de ce que je viens de décrire, et aussi pour se réjouir un peu, cette semaine, les paysans et paysannes dans la lutte des classes ont rencontré l'atelier paysan, qui fait face au système dominant et qui met en avant les savoirs et les savoir-faire des paysans et paysannes avec comme objet une réappropriation de la technique par et pour celles et ceux qui la créent, l'utilisent, l'ajustent et la réparent sans concessionnaire. Alors, bonjour, on est au domaine de Saint-Laurent, là en Saône-et-Loire, pour les rencontres de l'atelier paysan. Est-ce que tu peux nous te présenter et puis nous raconter l'histoire de ce réseau ?
Bonjour, Julien Ragnier, je suis salarié à l'Atelier Paysan. L'Atelier Paysan, c'est une coopérative sous statut SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui a démarré, hébergée par une association qui s'appelle Adabio, qui est une vieille association de développement de l'agriculture biologique dans le nord-est de Rhône-Alpes. Et qui a toujours été très forte pour accompagner techniquement les agriculteurs, leur permettre de développer des nouvelles techniques de production, de commercialisation, et qui avait des techniciens dans chacune des filières de production, et notamment le maraîchage. Et en 2009, il y a un technicien maraîchage de l'Adabio qui faisait pas mal le tour des fermes, donc dans les quatre départements du nord-est de Rhône-Alpes qui sont concernés par l'Adabio, l'Ain, l'Isère et les Deux-Savoie, et qui allait à la rencontre en fait de pas mal de fermiers, de maraîchers. Et qui s'est aperçu qu'il y avait plein d'autoconstructeurs sur ces fermes, des gens qui bricolent, qui adaptent leurs outils, qui peuvent partir de matériel existant pour le faire évoluer, ou alors qui carrément inventent quelque chose à partir de zéro, si ça n'existe pas, mais qu'ils en ont besoin pour leur pratique. Et du coup, il y a eu une rencontre avec Joseph Templier, qui est maraîcher, enfin qui était maraîcher vers Rives, donc en Isère, et qui lui, avec tout un groupe, avait inventé trois outils pour travailler le sol d'une manière un peu particulière en maraîchage biologique. Et cette manière particulière, c'est ce qu'on appelle les planches permanentes. C'est le fait que les roues du tracteur, elles vont toujours passer au même endroit. La compaction des roues du tracteur se fait toujours au même endroit. On forme des planches de culture qui ne vont pas bouger d'une année sur l'autre. On ne laboure plus. Et on va améliorer finalement son sol, la structure de son sol, la vie de son sol. Et il fallait des outils adaptés pour ça, et avec tout un groupe, ils ont développé trois outils. Et Joseph Templier était celui qui était le plus avancé dans la conception de ces trois outils, le cultibut, le vibroplanche et la buteuse à planche. Et à partir de ces trois outils et de l'expérience de ce groupe de maraîchers, qui ont conçu mais aussi autoconstruit ces outils, à partir d'éléments de récup, l'idée, ça a été de partir de ça pour lancer toute une démarche autour de l'autoconstruction paysanne, des machines paysannes. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait matière à capitaliser un savoir-faire paysan qui, jusqu'à présent, restait plutôt isolé, n'était pas vraiment mis en valeur. Pas vraiment valorisé. En 2009, Joseph et Fabrice Claire, le technicien de l'Adabio, se disent on n'a qu'à lancer un programme. On embauche un stagiaire qui va aller de ferme en ferme faire des tournées de recensement de ces bricolages paysans. On en fera des fiches techniques qu'on diffusera au maximum. Et puis même, chiche, on va partir des outils que toi, Joseph, t'as développés sur ta ferme avec d'autres collègues. Et puis on va les redessiner, parce que toi, tu les as fait à partir d'éléments de récup, mais pour que ce soit essaimable partout en France, il faut que ce soit faisable à partir d'éléments standards, de barres de métal qu'on va pouvoir découper, assembler. Il y a eu tout un travail de standardisation entre guillemets de ces outils pour qu'ils soient plus facilement essaimables. Et donc on s'est dit chiche, on se fait des formations autoconstruction. Donc ça, c'est en 2011, après 2 années de maturation du projet. Première formation qui est testée en février 2011 à la MFR, Maison Familiale et Rurale de Bourgoin-Jallieux. On réunit une dizaine de producteurs. Et puis, l'association avait acheté tout le matériel, donc les barres de 6 mètres, des accessoires. Et en une semaine, au bout d'une semaine, la dizaine de producteurs s'est formée au travail des métaux. C'est Joseph qui avait assuré la première formation. Donc ils ont tous appris à souder, à percer, à meuler. Au début, ça s'est fait avec le matos que chacun pouvait avoir sur la ferme. Et ils l'ont tous amené et prêté pour l'occasion. Et puis ils sont tous repartis avec, je crois que c'était le cultibut qui s'était construit. Ils sont tous repartis avec un cultibut sur le terrain. Et donc l'idée, c'était vraiment que les gens puissent s'équiper d'un outil à moindre coût, parce que l'autoconstruction, ça permet de diviser par 2, 3, voire 4 fois le coût d'un matériel qu'on trouve dans le commerce. L'idée, c'était aussi d'avoir un outil adapté pour une pratique agronomique bien particulière, donc les planches permanentes, là, le fait de plus labourer son sol, de travailler avec des outils non violents, donc des outils à dents qui ne retournent pas le sol, et puis surtout en planche permanente butée. C'est aussi faire rentrer plein de gens dans une pratique agronomique grâce à un outil adapté. Et puis former aussi des gens au travail des métaux qui s'autonomisent en se réappropriant des savoir-faire. Parce qu'on considère que le fait de savoir bricoler, de savoir réparer son outil, de savoir le régler, le modifier aussi, ça fait partie du métier de paysan, ça fait partie de l'activité du paysan, quoi. Il n'est pas obligé de tout déléguer. Ni à des spécialistes, des constructeurs de matériel, ni à des réparateurs. Il y a quand même, dans une certaine mesure, besoin que l'agriculteur puisse être autonome sur cette dimension-là du travail des métaux. Donc voilà, première formation en 2011. Et puis en février 2012, on sort un guide de l'autoconstruction qui... était un peu la somme de tout ce qui s'était passé depuis 2009 avec les plans et les tutoriels, donc les plans donnés de manière didactique avec toute la méthodologie de construction et puis toutes les cotes, les références de 16 outils pour le maraîchage biologique. Donc voilà, ça fait quand même un foin pas possible dans les campagnes. Et du coup, on a senti que l'Adabio, qui portait cette démarche, elle répondait vraiment à une forte demande qui restait couvée dans les campagnes. Et pas seulement pour le maraîchage, et il y a d'autres filières de production, des viticulteurs, des gens en élevage... en grande culture qui ont commencé à se dire là il y a quelque chose à faire, quoi. Donc on a créé une association dédiée à Adabio Autoconstruction en octobre 2011 parce que l'Adabio pouvait pas apporter l'activité d'achat-revente de matériaux qui servaient pour les formations. Et du coup, cette association, elle a été créée par les 10 premiers stagiaires de février 2011 et qui se sont dit, mais il ne faut pas qu'on s'arrête là, il faut qu'on développe la chose. Et donc, progressivement, c'est Adabio Autoconstruction qui a porté toute la démarche. Alors, on a pris un premier emploi, d'abord porté par l'Adabio, puis ensuite par Adabio Autoconstruction. Un premier emploi de formateur autoconstruction et ingénieur mécanique qui fait à la fois les plans des machines et ensuite il forme à l'autoconstruction. En octobre 2012, on obtient des financements de la région Rhône-Alpes qui nous permettent d'embaucher. Et donc là, on est 3 personnes, plus un service civique, 2 formateurs à cette époque, 1 camion, ça y est, on s'équipe, des postes à souder, c'est plus les paysans viennent... avec leur matériel, mais c'est l'association Adabio Autoconstruct qui s'équipe d'un outil de travail qui puisse souffrir de la formation de débutants en travail des métaux, quoi. Et d'année en année, en 2013, puis en 2014, puis en 2015, on a fait grossir la structure. Aujourd'hui, on est 9 salariés, bientôt 10. Là, il y a un formateur supplémentaire qui vient nous rejoindre en septembre. Et en 2014, on a converti l'association Adabio Autoconstruction en la coopérative L'Atelier Paysan. L'idée, c'était... déjà, c'était la promesse de départ. On a toujours été une association de préfiguration d'une coopérative. Mais l'idée, c'est qu'on avait testé aussi tous, dans nos militantismes et nos expériences différentes, les limites du modèle associatif. Et surtout la difficulté pour une association de porter un modèle économique comme celui qu'on a développé, où il faut quand même de la trésorerie, il faut pour toute cette activité d'achat-revente, de formation. La coopérative était plus adaptée. Et déjà, on avait cette idée qu'il y avait des usagers, des paysans, des partenaires du développement agricole, potentiellement des collectivités et des salariés qui pouvaient être intéressés pour travailler tous ensemble autour d'un projet commun. Et c'est pour ça que la SIC, c'est un statut qui nous a paru adapté, parce que ça permet de réunir tous ces gens autour d'un projet commun. Et donc, on s'est constitué en SIC en 2014. Donc aujourd'hui, on a 4 camions ateliers. On est itinérant avec nos camions qui sont bourrés de machines-outils, perceuses à colonnes, de postes à souder, de meuleuses. On va dans des ateliers qu'on loue un peu de partout en France et on organise comme ça des sessions de formation, une 30aine par an à peu près. Sur des outils très divers, plus seulement sur le maraîchage, mais aussi sur la viticulture, sur la grande culture. Et fait nouveau en 2015, on a embauché un architecte qui défriche toute cette question du bâti paysan, autoconstruit ou en tout cas bien réfléchi par le paysan. Comment ça a démarré, c'était un service civique, un architecte qui allait de ferme en ferme, comme on fait la plupart du temps, et qui documente l'invention, le bricolage de l'agriculteur ou de l'agricultrice, et qui ensuite le livre sur le forum, et qui est du coup disponible et qui sert d'idée, de base de réflexion à plein de gens pour repenser, reconcevoir leur système, leur bâti. Donc ça, c'est vraiment une dimension supplémentaire qui s'est rajoutée cette année.
Maintenant, on va faire une chanson des Appalaches, c'est-à-dire les montagnes à l'est et au sud des États-Unis, où ils ont pour habitude de faire des très belles chansons. Alors celle-là, elle est de Ola Mel Reed, qui est une super joueuse de banjo. Et...
forevermore. Restless hands, the world is wild. Restless hands, the world is weak. All born with love, as the ocean. This was the girl that I didn't mean. I left her there, back in the mountain, to see the world reaches to gain. Oh, when I return, no earthly treasures. Who is this so full of pain?
Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous fonctionnez pour, par exemple, des groupes de paysans et paysannes qui veulent autoconstruire un outil ou un bâtiment ensemble ?
Alors, comment on fonctionne ? Les initiatives individuelles, soit nous, on va de ferme en ferme les recenser, soit les gens les postent sur le forum de l'autoconstruction. Et on considère que ce forum, c'est une sorte de brouillon collectif où toutes les initiatives sont les bienvenues. Mais par contre, pour activer le travail de d'ingénierie, de recherche et développement, pour être grandiloquent, il faut que ce soit des initiatives collectives. Voilà, on n'est pas un bureau d'études à destination d'initiatives personnelles, quoi. Il y a très souvent des gens qui nous disent « Ah bah venez sur ma ferme, moi j'ai pensé à bricoler ça et tout ça ». Non, on souhaite que ce soit, il y ait une demande collective derrière, un peu comme les planches permanentes en maraîchage biologique, et c'est une méthode de production concerne vraiment, qui peut concerner tous les maraîchers, et c'est ça qui nous intéresse, quoi. Donc, on fait pas que aller recenser sur les fermes des initiatives. Voilà, toute cette approche collective, on monte des groupes de paysans. Récemment, par exemple, c'est sur le couchage d'engrais verts. Le fait de planter directement dans des engrais verts qu'on a semés, qui vont travailler eux-mêmes le sol, l'enrichir, le décompacter. Et puis on le couche avec un rouleau adapté qui permet aussi, avec un strip-till, d'ouvrir la planche de culture et de planter ou semer directement dans cet engrais vert qui couvre le sol en plus, et donc qui le protège. Bon, ben ça, c'est toute voilà, une nouvelle manière de voir son sol, d'approcher son sol, et pour lequel il y a des groupes de paysans qui se sont montés, et que nous, on accompagne. Et donc, on bâtit ensemble un cahier des charges. On va proposer des premiers plans, il va y avoir des critiques, des allers-retours, puis à un moment on va se mettre une chauffe pour faire un prototype qui va être testé, utilisé, il va y avoir des retours, et puis on va aboutir à une version qui semble faire consensus au plus grand nombre, et on va diffuser des premiers plans, avec bien sûr la mention « Attention, ceci est un prototype, ne vous faites pas avoir, ce n'est pas un outil miracle ». Mais là-dessus, c'est aussi une dimension importante, c'est que nous, on ne dit jamais qu'on diffuse des outils miracles. Il y a plein de gens qui viennent en formation, notamment sur les outils qui sont assez aboutis de planches permanentes, Cultibut, Vibroplanche et Buteuse. On leur dit, mais méfiez-vous, vous allez devoir vous approprier ces outils. C'est une base de réflexion, il faudra voir si ça s'adapte bien à votre ferme, à votre contexte, et là aussi c'est important, c'est quelque chose de nouveau chez nous, c'est qu'on fait des journées de démonstration sur les fermes pour accompagner les agriculteurs sur le réglage des outils, sur la technique agronomique qui est associée à l'outil, quoi. Voilà, l'outil est toujours adapté à une pratique, donc c'est pas un outil autonome comme ça. Donc voilà, on a aussi cette dimension-là pédagogique, quoi.
Alors j'avais envie de revenir sur la dimension du libre, parce qu'on a parlé jusqu'à maintenant de la dimension un petit peu do it yourself de l'atelier paysan par le biais de l'autoconstruction. Mais finalement, on a peu évoqué le fait que les données qui sont recueillies, comme les plans pour réaliser des outils par exemple, sont sur le site disponibles gratuitement. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus ?
Oui, c'est vrai que j'ai pas mentionné toute cette dimension du libre. C'est-à-dire que nous, on considère qu'on participe au commun en agriculture. Que tous ces savoirs et savoir-faire paysans qu'on participe soit à débusquer sur les fermes, soit à développer en collectif, ce sont des choses qui appartiennent à tout le monde, et on veut faire circuler cette connaissance, et on s'est dit que la méthode la plus appropriée, c'était de tout mettre en libre et de tout mettre à disposition, donc sur notre site internet. Depuis peu, tout est livré gratuitement, même les outils qui sont contenus dans le guide de l'autoconstruction qu'on vendait au début pour pouvoir payer tout ce travail de recherche et développement. Et voilà, maintenant, on peut continuer à acheter le guide pour soutenir la démarche, mais les plans sont livrés sur le site, et tout ce qui est développé, tout ce qui est nouveau, de toute façon, et sur le site internet. Est-ce qu'on peut se déplacer, parce qu'en fait depuis tout à l'heure, en fait, on se prend des vapeurs de la forge, et je commence à
avoir la gorge qui gratte un peu.
Ouais, qui gratte.
Je sais pas si tu voulais évoquer d'autres choses.
Les rencontres de l'atelier paysan, c'est la première fois qu'on fait un événement de cette envergure-là, directement sur une ferme, avec des bâches pour nous protéger de cette année bien pluvieuse, et pour pouvoir mener à bien des chantiers d'initiation au travail des métaux, des chantiers d'autoconstruction de matériel agricole, même de bâti paysan. Là, on est à côté de gens qui sont en train de construire une cabane à porc mobile. Donc c'est une cabane qu'on peut transporter un peu de partout sur la ferme, pour que les porcs puissent gambader en liberté. Des ateliers débats. sur toutes les grandes questions qui nous traversent à l'atelier paysan, que ce soit faire en sorte que les paysans puissent se dégager du temps sur la ferme. Nous, pour ce qu'on aimerait, c'est pour qu'ils puissent s'impliquer, et notamment dans des démarches de conception collective de matériel agricole ou s'impliquer dans leur GAP, dans toute une activité syndicale, dans toute une action collective paysanne. Mais dégager du temps aussi pour arrêter d'être complètement pris dans le travail, dans 70 heures de travail par semaine, avoir de la hauteur de vue et du coup ne plus se laisser avoir par le travail qui défile, mais mieux maîtriser son travail. Et ça passe aussi du coup par une réflexion sur ses outils, sur son matériel, sur son outil de travail. Donc on a eu des réflexions comme ça, on a des réflexions sur l'histoire de la mécanisation agricole et comment ça a été imposé, quels sont les discours qui ont permis de faire s'infiltrer la mécanisation dans les campagnes. Donc des ateliers très riches et puis après un côté festif aussi avec un festival Live at Château organisé par des copains qui édite un blog qui s'appelle Wine and Noise et qui pour la deuxième fois ont organisé un micro-festival rock et vin. Donc il y avait des dégustations de vins biologiques et biodynamiques et puis des 13 concerts de rock plutôt atypiques. Dans des endroits insolites de la ferme, dans le clapier, à l'étang, au lavoir, et puis après sous chapiteau. Donc c'était bien chouette. Et puis j'ai pas mentionné aussi le fait qu'il y avait tout plein d'ateliers agronomie, qui est aussi une dimension forte de notre projet politique, une agronomie participative, le savoir, il est dans les outils, mais il est aussi dans les pratiques, le savoir paysan. Et du coup, des outils exposés à la zone étang, des outils en traction animale, des outils pour le travail en planche permanente, des outils pour le débardage, pour le désherbage, il y a plein de choses. Et puis des témoignages de paysans sur leur système sur la ferme et comment ils utilisent ces outils et donc avec des riches échanges. Des rencontres où il y avait je pense à peu près 400 personnes qui sont passées sur ces 3 jours et qui ont été vraiment bien bien chouettes et riches en émotions. Voilà.
En tout cas, merci pour cet entretien. Et peut-être on peut finir par rappeler l'adresse du site internet de l'Atelier Paysan.
Un site internet www.latelierpaysan.org ou un forum. Ça doit être forum.latelierpaysan.org, mais de toute façon, ça se trouve directement le lien sur le site internet.
Ok, voilà. Merci et puis bonne suite de rencontre.
Merci beaucoup.
For
l'émission est presque terminée. Vous avez pu entendre des sons de postes à souder et autres bruits métalliques et de la musique folk américaine. Pour avoir des infos sur la ferme de Saint-Laurent qui a hébergé les rencontres de l'atelier paysan, vous pouvez aller sur leur site. Alors l'adresse c'est www.domaine-du-6-saint-du-6-laurent.fr. Et on peut rajouter que dans une prochaine émission, on reviendra sur une conférence qui a eu lieu pendant les rencontres, qui est intitulée « La fin des paysans et les ravages de la modernisation agricole ». Voilà. Mais pour l'heure, on va écouter encore un petit morceau de musique. Ça s'appelle « Alligator, Alligator » avec « Bloody Mouse ». Vous êtes toujours dans l'émission Les paysans et paysannes dans la lutte des classes qui a lieu tous les 15 jours sur Radio Canu. Et on va finir cette émission par un agenda. Donc on a pas mal de choses à vous proposer. Tout d'abord un week-end de résistance à la ligne de très haute tension, la THT, organisée à La Roche-de-Rame le week-end du 10 et 11 septembre. Donc ça, c'est en Haute-Durance. Donc le samedi 10, ça commence à partir de 18h avec la présentation d'un film. Ça se poursuit à 21h avec un concert. Et le lendemain, le dimanche 11, à 10h, est organisée une rando pylône avec pique-nique sous les lignes. À 15h, une assemblée de vallée. Et à 19h30, une marche au flambeau sur le tracé de la THT. Voilà, pour plus d'informations sur la résistance en haute durance, vous pouvez aller sur leur blog à l'adresse suivante https://nothth05.noblogs.org/. Voilà, on poursuit cet agenda avec une fête au quartier des Lentillères, une fête d'automne qui correspond à la sixième année d'occupation des terres maraîchères, des anciennes terres maraîchères de la ville, qui sont menacées par le projet, par un projet d'éco-quartier. Et enfin, on peut annoncer une grande manifestation, une manifestation qu'on espère être grande, le 8 octobre 2016 à Notre-Dame-des-Landes. Donc, je vais vous lire l'appel de la manif. Donc, c'est une manif, une construction et une fête. Acculé par les mobilisations massives des 9 janvier et 27 février, le gouvernement a organisé en juin une consultation biaisée. Se croyant fort du résultat de cette mascarade, les pro-aéroports et le Premier ministre ont confirmé leur intention de procéder cet hiver à l'évacuation et à la destruction de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, de ses cultures, de sa faune et de sa flore, de ses habitats et activités, ainsi que des liens entre toutes celles et ceux qui se sont attachés à ce bocage. Ces déclarations font fi de la situation juridique du dossier, puisqu'entre autres, les autorisations de travaux ne sont toujours pas accordées. Les porteurs du projet ne semblent pas avoir non plus mesuré la détermination de celles et ceux qui habitent ce bocage, des militants engagés à leur côté, le soutien dont ce mouvement bénéficie dans la région et bien au-delà, ainsi que l'implication des comités locaux. Ces 2000 hectares de bocage et ceux qui s'y vivent sont aujourd'hui porteurs d'espoir indéracinable face au saccage du vivant, des terres agricoles et à la marchandisation du monde. Il est impensable qu'ils disparaissent. À l'initiative de l'ensemble du mouvement d'opposition au projet d'aéroport, nous marquerons donc le 8 octobre notre volonté commune d'empêcher toute agression contre la ZAD et tout démarrage des travaux. En écho à bien d'autres luttes paysannes comme l'Arzac, nous ferons résonner le sol de milliers de bâtons. Nous les laisserons sur place en nous engageant ensemble à venir les reprendre en cas d'intervention et à défendre la ZAD, ses habitants et habitantes, paysans, paysannes et l'avenir qui s'y est construit. Nous montrerons également ensemble un hangar dont les éléments ont été fabriqués durant l'été sur la ZAD par des dizaines de charpentiers-charpentières. Cette œuvre collective concrétisera notre volonté de nous organiser pour la résistance en créant un lieu qui sera une base d'appui en cas de tentative d'expulsion, autant qu'une structure commune pour le futur. Convergeons vers Notre-Dame-des-Landes le 8 octobre 2016. Rendez-vous à 10h dans le bocage, à pied, en tracteur ou à vélo. Que chacun chacune apporte son bâton, sculpté, décoré et le mettre dans les roues du projet. Tous et toutes ensemble, empêchons l'aéroport. On peut rajouter qu'il va y avoir un certain nombre de cars qui vont être loués pour aller jusqu'à la ZAD, donc vous pouvez y grimper et pour être au rendez-vous à 10h dans le bocage. Donc voilà, l'agenda est terminé et pour finir cette émission et pour faire aussi un clin d'œil à la ZAD de Notre-Dame, on va passer un morceau de musique. Alors désolé, on n'a pas trouvé la version punk, mais ça s'appelle « Paysans en lutte debout ».
Étions bien 200 une nuit à Saint-Dolène, armés de nos faucilles à couper ton maïs. Jacou était semblable, vous nous volez la terre, vous ne ferez rien pousser qui ne sera coupé.
Préparons nos fouches et nos fusils
contre les cumulards et le rapport Vedel, contre les exploiteurs, soyons tous des rebelles.
Paysans en lutte debout, défions tous les seigneurs vivants de notre labeur, relevons tous la tête, soyons tous les Jacou, paysans en lutte debout.
Sous
sauvage les battus du côté d'Herbignac, sauvage aussi les gars du Cavre à Pontchâteau. Fini de travailler pour le ventre des cochons, traquons vos sangliers, pillons vos chasses gardées,
préparons nos fourches et nos fusils,
contre les cumulards et le rapport Vedel, contre les exploiteurs, soyons tous des rebelles,
paysans en lutte debout, défions tous les seigneurs vivants de notre labeur, relevons tous la tête, soyons tous les jacous, paysans en lutte debout.
Ministre Guichard un jour vint au Drény, lui qui vous laisse montrer pris sa déculottée. Vous voulez liquider tous les paysans pauvres, vous les pourris bourgeois, on vous étripera.
Préparons nos fourches et nos fusils,
contre les cumulards et le rapport Vedel, contre les exploiteurs, soyons tous des rebelles.
Paysans en lutte debout, défions tous les seigneurs vivants de notre labeur, relevons tous la tête, soyons tous les jacous, paysans en lutte debout, préparons nos fourches et nos fusils.
Le paysan, il a un statut, quelque sorte de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
Mais tout cela parce que on défend l'agriculture de type capitaliste et nous, on nous laisse inapprofondir.
Il y a trop de gens autour de nous qui continuent à tout s'accaparer, donc on va laisser la place.
Un paysan, son but, c'est pas d'être propriétaire en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Les gens qui se déclarent paysans, la tête haute.
You don't know what I'm doing. Love your mother, I'm